Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. La mission des Nations Unies en République centrafricaine a reçu ce mardi le renfort de 300 casques bleus rwandais pour sécuriser l'axe de ravitaillement vital reliant la capitale Bangui au Cameroun, a indiqué la MINUSCA dans un tweet. Ce déploiement intervient dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 12 mars, prévoyant d'augmenter progressivement d'environ 3000 casques bleus les effectifs de la MINUSCA. En République démocratique du Congo, un officier des renseignements a été lynché à Beni dans l'est du pays. Claire Morin-Gibourg aura les détails. Une cinquantaine de personnes ont été tuées dans des accidents de la route au Mali et au Sénégal voisin. Abdourahmane Dia fera le point. En Côte d'Ivoire, fin des coupures intempestives de courant, assure le gouvernement. Rosine Mounezero y reviendra dans quelques instants. L'ONU a condamné ce mardi les accusations dangereuses de partialité faites par le gouvernement éthiopien à l'encontre des travailleurs humanitaires au Tigré, région en guerre où l'aide alimentaire peine à arriver malgré la famine. Samantha Power, directrice de l'USAID, l'agence américaine d'aide internationale qui s'est rendue dans le camp d'Oum Rakouba qui abrite au Soudan des milliers de réfugiés éthiopiens ayant fui le Tigré, a déclaré hier sur Twitter « Les États-Unis ont poussé toutes les parties au Tigré pour un cessez-le-feu immédiat dans l'espoir que les gens comme les Éthiopiens que je rencontre ici puissent rentrer chez eux. Le conflit a engendré d'atroces attaques contre les civils. Il impacte des millions de personnes. Il doit cesser », a-t-elle souligné. L'Union européenne a désormais complètement vacciné la moitié de sa population, selon l'AFP, et les États-Unis ont atteint le taux de 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin. Vacciner l'Amérique et aider à vacciner le monde, c'est comme cela que nous sommes sur le point de vaincre la pandémie. Le président américain Joe Biden s'est félicité ainsi hier des plus de 110 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 distribuées par les États-Unis à travers le monde, tout en exhortant les Américains encore non vaccinés à sauter le pas. Une preuve de vaccination sera exigée à New York pour accéder à l'intérieur des restaurants, des salles de sport et de spectacle, a annoncé hier le maire démocrate Bill de Blasio, faisant de sa ville la première aux États-Unis à créer un passeport vaccinal baptisé Key to New York City Pass. Sous pression de l'aile gauche des démocrates, les autorités sanitaires américaines ont décrété hier un nouveau moratoire sur les expulsions de locataires jusqu'en octobre en s'appuyant sur les risques pour la santé publique en pleine pandémie de COVID-19. Près de 11 millions d'Américains sont concernés. Un policier a été tué mardi dans une attaque à quelques mètres du Pentagone après que plusieurs coups de feu ont été entendus à la station de bus près du bâtiment qui a été brièvement placé en état d'alerte selon la police du ministère de la Défense. Selon un responsable ayant requis l'anonymat, le policier est décédé des suites de blessures à l'arme blanche et son assaillant a été tué par balle. Le gouverneur démocrate de l'État de New York, Andrew Cuomo, a été accablé mardi par les conclusions d'une enquête indépendante l'accusant d'avoir harcelé sexuellement une dizaine de femmes, ce qu'il a aussitôt nié. Les appels à la démission se sont cependant multipliés dans son cas jusqu'au président Joe Biden, considéré comme un ami de M. Cuomo. Dernière minute. 3 blessés en Afghanistan dans l'explosion d'une mine en bord de route à Kaboul au lendemain d'un attentat suicide qui a fait 5 morts et 20 blessés dans la capitale près du domicile du ministre de la Défense. L'américaine Sydney McLaughlin a été sacrée championne olympique du 400 mètres et en battant son propre record du monde en 51 secondes 46 ce mercredi à Tokyo face à sa compatriote et tenante du titre de Laila Mohamed et la néerlandaise Femke Bol. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, un officier des renseignements est mort, lynché à Beni, lors de l'arrestation d'une complice présumée du groupe Forces démocratiques alliées, Claire Morin-Gibourg.
Le lynchage de l'agent Olivier Sombo-Gonza a été confirmé par le lieutenant Anthony Moualou Chahi, porte-parole de l'armée à Beni. L'officier des renseignements Sombo était en mission pour arrêter une dame, chef adjointe du quartier Rwangoma, suspectée d'avoir facilité une attaque qui a causé la mort d'une dizaine de civils habitants de ce quartier début juillet, a expliqué le porte-parole. La suspecte et trois de ses collaborateurs ont été arrêtés, mais une foule en colère, selon l'armée, a lynché l'officier des renseignements. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés. Le président Félix Tshisekedi a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police dans ces deux provinces. Au moins 16 civils ont été tués lundi en Ituri dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. Les victimes ont été exécutées à l'arme blanche près de la localité d'Idohou. Au moins 2 femmes étaient parmi les victimes qui avaient été prises en otage il y a quelques semaines par les rebelles ADF. Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF sont revendiquées par le groupe État islamique en Afrique centrale.
Plus de 50 morts dans des accidents routiers au Mali et au Sénégal voisins. 41 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans le centre du Mali dans la collision mardi entre un bus et un camion, tandis qu'un autre accident de la route a fait 11 morts au Sénégal. Abdourahmane Dia.
C'est un mardi macabre sur les routes dans ces deux pays ouest-africains. Selon le ministre malien des Transports, Dembélé Madina Sissoko, c'est vers 10h local et GMT qu'un bus transportant des passagers est entré en collision avec un camion chargé de céréales et d'intrants agricoles. La collision est survenue à Zambougou, à une vingtaine de kilomètres de Ségou, ont dit les autorités. Le ministre a invoqué les mauvaises conditions dues à la saison des pluies, l'état des routes ainsi que des problèmes techniques sur le camion. Des témoins ont fait état de la crevaison d'un pneu. Les autorités maliennes ont annoncé une enquête et appelé les transporteurs à un respect strict des règles de conduite. Au Sénégal voisin, le président Macky Sall a exprimé sur Twitter sa douleur à la suite d'un terrible accident de la route survenu mardi matin dans le nord du pays et qui a fait 11 morts selon lui. L'accident survenu à hauteur de la localité de Ndjoum a été causé par une collision entre deux cars, a indiqué à l'AFP un responsable des sapeurs-pompiers.
En Côte d'Ivoire, la crise énergétique survenue en avril dernier et qui a provoqué pendant près de 2 mois d'importantes coupures de courant dans le pays est terminée. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre ivoirien de l'énergie, Thomas Camara. Le point avec Rosine Mounezero.
La fourniture de l'électricité est rétablie depuis le 9 juillet sur toute l'étendue du territoire, a expliqué Thomas Camara lors d'une conférence de presse à Abidjan. Le rationnement de l'électricité est terminé, a-t-il martelé, expliquant qu'il avait duré 45 jours. L'importante panne d'une centrale hydraulique avait provoqué de nombreuses coupures de courant qui avaient affecté entreprises et consommateurs. Pour prévenir une autre crise, le pays s'est doté d'une nouvelle centrale de réserve d'une capacité de 200 MW et a réparé la centrale thermique d'Azito d'Abidjan qui génère le tiers de l'électricité du pays. Selon M. Camara, depuis 8 ans, la Côte d'Ivoire a produit en 2019 plus de 2000 MW d'électricité et a exporté en 2020 11% de sa production d'électricité vers 6 pays voisins, Ghana, Togo, Bénin, Burkina, Mali et Libéria. Actuellement, dotée d'une puissance installée de 2300 MW. La Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre la barre des 6600 MW en 2030, dont 16% proviendraient d'énergie renouvelable.
Et maintenant les sports, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, la piste d'athlétisme chauffera aujourd'hui avec notamment les finales attendues du 200 mètres messieurs, du 800 mètres messieurs et du 400 mètres haies dames. Hier, le Nigeria a décroché ses premières médailles dans ses JO de Tokyo. Blessing Oborududu, 32 ans, a remporté une médaille d'argent dans la lutte libre féminine. Bien avant, Issé Broumé a offert au Nigeria sa première médaille dans ses JO de Tokyo dans le saut en longueur. Bagasikura.
Oui, Issé Broumé décroche la première médaille de ses JO pour son pays dans la discipline du saut en longueur. Elle a arraché le bronze avec un saut de 6,97 m, la même performance que la deuxième, l'américaine Brittany Reese, qui a réussi un deuxième meilleur bond, d'où sa médaille d'argent. Issé Broumé est la première Nigériane sur le podium olympique de la longueur depuis le titre de Chioma Adunua en 1996 à Atlanta. L'or est revenu à l'Allemande Maleika Mihambo, devenue championne olympique pour la première fois de sa carrière au saut en longueur grâce à un ultime essai à 7 mètres. Au 200 mètres, la sensation namibienne Christine Mboma, 18 ans, a enlevé la médaille d'argent, devenant la deuxième médaillée olympique de l'histoire de la Namibie, tout sport confondu. Après, bien sûr, le sprinter Frankie Frédéric, star des années 90. La grosse déception est ivoirienne. Marie-Josée Talou a fini la course à la cinquième place. L'épreuve a été dominée par la Jamaïcaine Hélène Thompson-Hera, qui a réussi du même coup le doublé trois jours après le 100 mètres, comme à Rio en 2016. Avec le deuxième chrono le plus rapide de l'histoire, 21 secondes 53, l'américaine Gabrielle Thomas a pris la troisième place. En boxe, messieurs, le Ghanéen Samuel Taki a enlevé le bronze à égalité avec le Cubain Lázaro Álvarez.
Merci, Bagassi. Après le report des Jeux Olympiques d'été l'année dernière au Japon en raison de la pandémie, des étudiants athlètes américains ont continué de trouver un équilibre entre l'école et l'entraînement en prévision des Jeux de cet été à Tokyo. Un sujet de Connor Smith, récit Claire Mourinjibou.
Les athlètes universitaires ont reporté leurs rêves olympiques tout en continuant d'équilibrer leur travail en classe et leurs entraînements après le report des Jeux de Tokyo de 2020 en raison du Covid-19. Pour participer aux Jeux olympiques, les cyclistes doivent avoir au moins 19 ans. Mais Megan Jastrab n'avait que 18 ans l'été dernier lors des qualifications. Elle a eu 19 ans en janvier dernier. Le décalage des JO dû au Covid lui a permis de devenir éligible pour concourir à Tokyo.
Personnellement, une année supplémentaire m'a vraiment permis de mûrir, de grandir et de passer plus de temps sur la piste, ce qui était vraiment bien pour moi.
Megan a déménagé de Milligan au centre d'entraînement olympique de Colorado Springs après son premier semestre en 2019. Elle a suivi des cours virtuels tout en s'entraînant pour Tokyo avec des horaires parfois difficiles à cumuler.
Si vous finissez un peu tard à l'entraînement, la dernière chose que vous voulez faire est de rentrer à la maison, d'ouvrir votre ordinateur et de faire vos devoirs. La partie la plus difficile, je pense, c'est de continuer à suivre les cours, mais je suis motivée par mes études et ma formation, donc c'est un peu plus facile pour moi.
Andrew Capobianco est un plongeur américain inscrit à l'Université de l'Indiana. Pour lui, trouver un équilibre entre l'école et la formation l'a aidé.
Je pense qu'au cours de la dernière année, j'ai vraiment appris à trouver un bon équilibre et cela a fait partie de ma très bonne préparation avant cette année olympique.
Le nageur bulgare, Antani Ivanov, affirme que la pandémie lui a donné, ainsi qu'à d'autres athlètes, plus de temps pour se reposer avant les Jeux.
Je pense que c'est pourquoi nous voyons tant de meilleurs résultats dans tous les sports en sortant de la pandémie, parce que les gens se sont en quelque sorte reposés mentalement de la pression et du stress de leur sport spécifique.
Paul Willey est un ancien sportif qui a participé aux Jeux Olympiques. Il affirme que les étudiants athlètes de l'équipe américaine doivent s'imprégner de l'expérience et s'appuyer sur l'énergie mentale qu'ils ont accumulée au cours de leurs innombrables heures entre l'école et l'entraînement.
Si j'avais un conseil à donner, ce serait, vous avez peut-être dû faire des sacrifices pour être là où vous êtes. Vous vous êtes peut-être éloigné de vos études ou même de votre sport. Mais comptez aussi sur votre entraînement mental. C'est un conseil qui m'a été donné avant les JO.
Merci Claire. C'est ici que se referme cette fenêtre spéciale consacrée aux Jeux Olympiques.
Merci Yacoub. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedounia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics ont entamé une grève illimitée pour réclamer des arriérés de salaire. Ce débrayage fait suite à un ultimatum de 21 jours que le personnel médical avait lancé au gouvernement. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Ce n'est pas la première fois que les médecins nigériens refusent de travailler pour des questions similaires, paralysant les activités dans les hôpitaux publics. Cette fois-ci, le syndicat des médecins accuse le gouvernement de manque de sincérité dans la mise en œuvre d'un accord précédent. Oyelawa Okwayesoyi, président de l'Association nationale des médecins internes.
Nous avons des problèmes de nos paiements réguliers, de nos salaires. Ensuite, selon l'accord déjà signé, les familles de nos collègues qui sont morts après avoir été en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 devaient bénéficier des prises en charge. Mais à notre grande surprise, après vérification, leur nom ne figure même pas sur la liste des gens qui doivent percevoir des compensations.
Le syndicat des médecins affirme que la grève vise à pousser le gouvernement à honorer ses engagements sur les arriérés de salaire, les indemnités de risque et la couverture d'assurance maladie. À l'hôpital national d'Abuja, les activités tournent au ralenti. Beaucoup de patients sont arrivés tôt le matin pour des soins, mais l'absence de médecins prétend obliger certains de retourner à la maison. D'autres sont restés espérant avoir la chance de voir un médecin. C'est le cas de Farouk Ibrahim.
J'étais déjà là hier, mais je n'ai pas pu voir de médecin à cause de la grève. Ils étaient tous absents, sauf le chef de département. Il avait promis de recevoir 25 patients, mais il ne pouvait pas le faire aussi. Nous sommes revenus encore aujourd'hui, mais le docteur dit qu'il ne peut prendre que 15 personnes.
Les médecins internes, qui représentent environ 40% du personnel médical dans le pays le plus peuplé d'Afrique et ceux qui traitent les cas de Covid-19, prennent part au mouvement. 19 de leurs collègues ont trouvé la mort en prenant soin des malades de Covid-19 depuis le début de la pandémie. De nombreux Nigériens préfèrent se faire consulter dans les hôpitaux publics car ils n'ont pas de moyens de se faire consulter dans les centres de santé privés où les frais sont très élevés. Fatima Bello est venue avec son enfant malade.
Il y a juste 2 mois que les médecins étaient en grève. Déclencher une autre grève, c'est vraiment décevant. Ce n'est pas tout le monde qui a des moyens de se rendre dans une clinique privée. Même si on a des moyens, il est plus facile pour nous de voir nos médecins ici. Ils savent déjà nos situations sanitaires. Donc honnêtement, c'est décevant.
Les médecins se plaignent depuis longtemps de manque de lits et de médicaments dans les hôpitaux, ainsi que des équipements de protection. Les autorités craignent qu'une grève ne déstabilise un peu plus le système de santé déjà mis sous pression et au moment où il doit vacciner sa population. Le Nigeria a officiellement enregistré plus de 174 000 cas de coronavirus et 2149 morts. En juillet, le Centre nigérien de contrôle des maladies a déclaré avoir détecté le variant Delta très contagieux, replaçant en état d'alerte les autorités qui craignent une troisième vague meurtrière dans le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Niger, les fortes précipitations de ces dernières semaines font des victimes dans le pays. Un récent bilan de la Direction de la protection des civils fait état de plusieurs milliers de sinistrés, dont 35 personnes mortes dans l'effondrement de leur maison ou par noyade. 3 villes sont particulièrement touchées par ces inondations. La situation de la capitale Niamey dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Comme les années précédentes à Niamey, la capitale, ce sont les quartiers et villages environnant la ville qui sont les plus touchés par les inondations. Avec les premières fortes précipitations enregistrées, une grande partie du village de Gabougoura, situé dans le premier arrondissement communal, a été inondée. Adamou Saleh est son chef.
Gabougoura, c'est une zone inondable. Chaque fois qu'il y a ce genre de précipitations, en tout cas, l'ensemble du village est sur pied. Oui, mon local. Moi, Dieu merci, j'ai eu la chance de construire en matériaux définitifs. Mais les autres villageois, vous voyez que vraiment ceux qui ont des bancos et autres, comment ils peuvent en tout cas gérer cette situation. Depuis un certain temps, nous avons fait des cris de cœur à l'État, vraiment à l'État et à certains partenaires, vraiment pour qu'ils puissent vraiment trouver une solution de manière durable et exceptionnel à cette situation.
Sur le site de l'hippodrome de Niamey, où les sinistrés des inondations de l'année dernière ont été relogés, l'inquiétude est grande après les premières précipitations. Les sinistrés craignent en effet, là aussi, d'être envahis par les eaux.
On a eu à faire face à pas mal de problèmes, parce que j'ai pas fait le calcul, mais je sais que beaucoup de nos gens se sont retrouvés dans l'eau. Donc on était obligé de les déplacer pour trouver des places un peu rehaussées pour les recaser. Et cela n'a fait que commencer, parce que je sais que quand les pluies seront abondantes, vraiment tout le site, on a compris que tout ce site ne serait pas habitable. C'est-à-dire, dès qu'il y aura des pluies fortes qui sont rapprochées, vraiment le site serait tout le site serait inondé. Et quand on a quitté Saga, nous on ne pensait pas qu'on nous a amené dans un site où l'eau allait nous emmerder à ce point. On a été inondé, donc on doit nous choisir un endroit vraiment inondable. Mais cela n'a pas été le cas. Il y a eu personne de la ville de Niamey et personne du gouvernorat. Les conditions sont trop précaires.
L'autre cause des inondations dans la ville de Niamey, c'est la montée des eaux du fleuve. L'année dernière, par exemple, plusieurs rizières ont été englouties. Pour éviter cette situation cette année, riziculteurs et riverains du village de Liboré ont décidé de renforcer la digue protectrice.
Maintenant, wallahi barku si la bora kam bina mansara il kwar hin ko ne da bani gungu ine bora mate digi.
L'année passée, nous avons été profondément touchés par l'inondation, raison pour laquelle cette année, notre village et celui de Bani Gongo se sont concertés pour construire ensemble une digue qui empêchera aux eaux de pluie de nous engloutir. Une fois encore.
Selon les prévisions des services de la météorologie, les précipitations seront cette année également abondantes sur l'ensemble du territoire national. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
La République démocratique du Congo est actuellement frappée de plein fouet par la troisième vague de la pandémie de COVID-19 avec le variant Delta. Face à un système de santé très faible et à la pénurie d'oxygène dans de nombreux hôpitaux, de nombreuses personnes présentant des symptômes du coronavirus préfèrent recourir aux pratiques de la médecine traditionnelle qu'elles jugent moins coûteuses est très efficace. Zanem Neti Zaidi nous en dit plus dans ce reportage.
En plus des denrées alimentaires, sur les étals des commerçants du marché des Virunga à Goma, il y a aussi une grande variété d'herbes médicinales. Ces plantes sont utilisées par les habitants des Goma pour les traitements et la prévention du coronavirus. Kavuo, une ancienne vendeuse des tomates, s'est même convertie à la vente de plusieurs variétés de plantes et d'herbes. Elle explique ici comment utiliser ces produits pour lutter contre le coronavirus.
Nous faisons d'abord bouillir dans de l'eau ces plantes. Nous faisons asseoir le patient sur un escabeau ou une petite chaise. Nous le couvrons avec un drap ou une étoffe qui ne peut pas dégager la chaleur. Puis nous mettons la casserole chaude à l'intérieur. Le patient ouvre le couvercle pour inhaler la vapeur émanant de la casserole. C'est ce qui aide le patient à guérir. Cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Le bain de chaleur est une pratique ancienne que nos ancêtres faisaient. C'est de la vraie médecine depuis fort longtemps.
Cette pratique de médecine traditionnelle est appelée Mouvouke, qui signifie « chaleur » en Swahili. Ce sont des plantes comme les cyprès, le feuille des calputus blanc, des manguiers, des goyaviers et de la citronnelle qui sont bouillis ensemble pour faire un pain de chaleur. Fiston avait ressenti des symptômes similaires à ceux du coronavirus. Il a eu recours au Monvouké, beaucoup moins cher qu'une prise en charge dans les hôpitaux.
Ça fait à peu près une semaine que je suis en train de pratiquer. Je ne sens plus ces douleurs articulaires. Il n'y a plus même un mot de tête. Il n'y a plus même la toux. C'est vraiment un résultat positif pour moi. Ah oui, ces derniers temps, franchement, avec la saturation des hôpitaux, les hôpitaux sont tellement saturés et cela fait passer que la prise en charge aussi puisse manquer aussi sa qualité. C'est ainsi que j'ai décidé de recourir à un moyen traditionnel qui va vraiment m'aider facilement.
Même si les Mouvouké restent très populaires, les médecins, pour leur part, mettent en garde contre les graves conséquences sur les utilisateurs. Le docteur Eric Kihambu est l'un des médecins qui prennent en charge les malades du Covid-19 à l'hôpital Kieshiro de Goma.
Ce qui est sûr, c'est vrai, ce sont des plantes naturelles. La plupart des médicaments viennent. Ils sont issus de plantes naturelles. Mais quant à ce qui concerne son utilisation dans la prise en charge de Covid, c'est quand même quelque chose à ne pas trop encourager. Pourquoi ? Parce que leur principe actif n'est pas vraiment connu pendant que nous avons au sein de l'hôpital des molécules qui sont adaptées pour cette fin-là. Vraiment, nous lançons un appel au niveau de la population de bien vouloir consulter les structures sanitaires qui sont appropriées pour la prise en charge des cas de Covid-19.
À Goma, la prise en charge des malades du Covid-19 est toujours un casse-tête. Avec le variant Delta, les hôpitaux sont débordés chaque jour et le nombre des décès augmente à un rythme effrayant. Zanem Neti Zaidi à Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Des drones à navigation autonome pourraient révolutionner l'avenir de l'agriculture, des missions de recherche et de sauvetage et beaucoup plus encore. Julie Tabot de la VOA nous donne un aperçu exclusif de ce qui se passe dans les coulisses. Le récit est de Arzuma Compaoré.
De petits drones capables de voler et de naviguer tout seuls, comme des abeilles, sont la vision du futur pour une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland. Yanis Aluamonos est professeur du département d'informatique de cette université, non loin de Washington, où il dirige le projet.
They are very small flying mechanisms.
Ce sont de très petits engins volants équipés de caméras, de capteurs et d'ordinateurs. Ils sont capables de percevoir le monde, y réfléchir, prendre des décisions et agir en conséquence.
L'étudiante Nitin Sanke prépare un doctorat dans le groupe du professeur Yanis.
Je pense que nous devrions réduire un peu la taille de ce drone.
Bientôt, de tels drones autonomes pourront aider à polliniser les fleurs ou travailler dans des environnements dangereux pour l'homme. À nouveau, le professeur Yanis Aluamonos du département d'informatique de l'Université du Maryland.
Lorsque cette technologie arrivera sur le marché, elle sera très utile dans les opérations de recherche et de sauvetage en termes de tremblements de terre, d'inspection de ponts ou d'agriculture.
Ces drones ne sont pas contrôlés par un humain avec une manette, mais ils utilisent plutôt la vision par ordinateur pour voir les obstacles sur leur chemin et l'intelligence artificielle pour déterminer le meilleur moyen de les contourner ou de les traverser. Ils ont été conçus pour imiter le comportement des oiseaux et des abeilles, pour se déplacer et naviguer à travers de petites ouvertures. Et ils seront lancés sur le terrain à partir d'un drone plus gros, conçu comme une ruche, pour effectuer une multitude de tâches. Nitin Sanke, du groupe du professeur Yanis.
Ces drones ouvrent un monde de possibilités car si vous voulez déployer 1000 drones de grande taille, vous aurez besoin de 1000 opérateurs, n'est-ce pas? Avec ces plus petits, vous avez juste un gros drone et il en transporte 1000 jusqu'à un point pour les déployer de manière automatique.
Les drones abeilles peuvent parcourir plus de 6 km aller-retour. Il y a cependant quelques inquiétudes quant à la potentielle utilisation abusive de ces petites machines. Pour l'instant, l'équipe du chercheur de l'Université du Maryland se concentre sur le bien-être qu'elles peuvent apporter.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.